Lucien Levenne, suite du chapitre 42. Au bout de 8 jours de cette vie-là, Lucien fut de retour sur la terre. Il avait surmonté l'ébranlement produit par la dernière soirée à Nancy. Son premier remords fut de n'avoir pas écrit à M. Gautier. Il lui fit une lettre infinie et, il faut l'avouer, assez imprudente. Il signa d'un nom en l'air et chargea le préfet de Strasbourg de la mettre à la poste. « Venant de Strasbourg, se dit-il, peut-être elle échappera à Madame Cugnet et au commissaire de police du renégat du moral. » Il fut curieux de suivre dans les divers bureaux la correspondance de ce du moral, dont le comte de Vèze semblait avoir peur. On était alors dans tout le feu des élections et des affaires d'Espagne. La correspondance de M. Dumoral, parlant de Nancy, l'amusa infiniment. Il s'agissait de M. de Vassigny, homme très dangereux, de M. Dupoirier, personnage moins à craindre dont on aurait raison avec une croix et un bureau de tabac pour sa sœur, etc. Ces pauvres préfets, mourant de peur de manquer leurs élections et exagérant leur embarras à leurs ministres, avait le pouvoir de le tirer de sa mélancolie. Telle était la vie de Levenne. 6 heures au bureau de la rue de Grenelle, le matin, 1 heure au moins à l'opéra le soir. Son père, sans le lui dire, l'avait précipité dans un travail de tous les moments. « C'est l'unique moyen, disait-il à Madame Levenne, de parer au coup de pistolet si toutefois nous en sommes là, ce que je suis loin de croire. Sa vertu si ennuyeuse l'empêcherait seule de nous laisser seuls, et, outre cela, il y a l'amour de la vie et la curiosité de lutter avec le monde. » Par amitié pour sa femme, M. Levenne s'était entièrement appliqué à résoudre ce problème. « Vous ne pouvez vivre sans votre fils, lui disait-il, et moi sans vous. Et je vous avouerai que depuis que je le suis de près, il ne me semble plus aussi plat. Il répond quelquefois aux épigrammes de son ministre, et la ministresse l'admire. Et à tout prendre, les jeunes réparties un peu trop vertes de Lucien valent mieux que les vieilles épigrammes sans pointe du Devèze. Reste à voir comment il prendra la première friponnerie de son excellence. Lucien a toujours la plus haute idée des talents de M. Devèze. C'est là notre seule ressource. C'est une admiration qu'il faut soigneusement entretenir. Cela est capital pour nous. Mon unique ressource, après avoir nié tant que je pourrais le coup de canif donné à la probité, sera de dire « Un ministre de ce talent est-il trop payé à 400 000 francs par an » Là-dessus, je lui prouverai que Sully a été un voleur. 3 ou 4 jours après, je paraîtrai avec ma réserve, qui est superbe. Le général Bonaparte, en 1796, en Italie, volait. Auriez-vous préféré un honnête homme comme Moreau, se laissant battre en 1799, à Cassano, à Novi, etc. Moreau coûtait au trésor 200 000 francs peut-être, et Bonaparte 3 millions. J'espère que Lucien ne trouvera pas de réponse, et je vous réponds de son séjour à Paris tant qu'il admirera M. Devèze. Si nous pouvons gagner le bout de l'année, dit Madame Levenne, il aura oublié sa Madame de Chastelet. Je ne sais pas. Vous lui avez fait un cœur si constant. Vous n'avez jamais pu vous déprendre de moi. Vous m'avez toujours aimé en dépit de ma conduite abominable. Pour un cœur tout d'une pièce, tel que celui que vous avez fait à votre fils, il faudrait un nouveau goût. J'attends une occasion favorable pour le présenter à Madame Grandet. Elle est bien jolie, bien jeune, bien brillante. Et, de plus, veut absolument avoir une grande passion. Si Lucien voit l'affectation, il prendra la fuite, etc., etc. Un jour de grand soleil, vers les 2h30, le ministre entra dans le bureau de Levenne, la figure fort rouge, les yeux hors de la tête et comme hors de lui. courez auprès de monsieur votre père. Mais d'abord, copiez cette dépêche télégraphique. Veuillez prendre copie aussi de cette note que j'envoie au journal de Paris. Vous sentez toute l'importance et le secret de la chose. » Il ajouta pendant que Lucien copiait. « Je ne vous engage pas à prendre le cabriolet du ministère, et pour cause, prenez un cabriolet sous la porte cochère en face, donnez-lui 6 francs d'avance, et au nom de Dieu, trouvez monsieur votre père avant la clôture de la bourse. Elle ferme à 3h30, comme vous le savez. » Lucien, prêt à partir et son chapeau à la main, regardait le ministre tout haletant et qui avait peine à parler. En le voyant entrer, il l'avait cru remplacé, mais le mot télégraphe l'avait bientôt mis sur la voie. Le ministre s'enfuit, puis rentra. Il dit d'un ton impérieux. « Vous me remettrez à moi, monsieur, les 2 copies que vous venez de faire, et sur votre vie, vous ne les montrerez qu'à monsieur votre père. » Cela dit, il s'enfuit de nouveau. « Voilà un ton qui est bien grossier, bien ridicule, » se dit Lucien. Ce ton si offensant n'est propre qu'à suggérer l'idée d'une vengeance trop facile. Voilà donc tous mes soupçons avérés, pensait Lucien en courant en cabriolet. Son Excellence joue à la bourse, à coup sûr, et me voilà bel et bien complice d'une friponnerie. Lucien eut beaucoup de peine à trouver son père. Enfin, comme il faisait un beau froid et encore un peu de soleil, il eut l'idée de le chercher sur le boulevard, et il le trouva en contemplation devant un énorme poisson exposé au coin de la rue de Choiseul. Monsieur Leven le reçut assez mal et ne voulut point monter en cabriolet. « Au diable ton casse-cou ! Je ne monte que dans ma voiture, quand toutes les bourses du monde devraient fermer sans moi !» Lucien courut chercher cette voiture au coin de la rue de la Paix où elle attendait. Enfin, à 3h15, au moment où la bourse allait fermer, monsieur Leven y entra. Il ne reparut chez lui qu'à 6h. « Va chez ton ministre, donne-lui ce mot, et attends-toi à être mal reçu. »« Eh bien, tout ministre qu'il est, je vais lui répondre ferme. » dit Lucien, fort piqué de jouer un rôle dans une friponnerie. Il trouva le ministre au milieu de 20 généraux. « Raison de plus pour être ferme !» se dit-il. On venait d'annoncer le dîner. Déjà, le maréchal N donnait le bras à madame de Vèze. Le ministre, debout au milieu du salon, faisait de l'éloquence. Mais en voyant Lucien, il n'acheva pas sa phrase. Il partit comme un trait en lui faisant signe de le suivre. Arrivé dans son cabinet, il ferma la porte à clef et enfin se jeta sur le billet. Il faillit devenir fou de joie. Il serra Lucien dans ses grands bras vivement et à plusieurs reprises. Leven, debout, son habit noir boutonné jusqu'au menton, le regardait avec dégoût. « Voilà donc un voleur, » se disait-il. Et un voleur en action. Dans sa joie comme dans son anxiété, il a des gestes de laquais. Le ministre avait oublié son dîner. C'était la première affaire qu'il faisait à la bourse, et il était hors de lui du gain de quelques milliers de francs. Ce qui est plaisant, c'est qu'il en avait une sorte d'orgueil. Il se sentait ministre dans toute l'étendue du mot. « Cela est divin, mon ami !» dit-il à Lucien en revenant avec lui vers la salle à manger. « Au reste, il faudra voir demain à la revente. » Tout le monde était à table, mais par respect pour son Excellence, on n'avait pas osé commencer. La pauvre madame de Vèze était rouge et transpirait d'anxiété. Les 25 convives, assis en silence, voyaient bien que c'était le cas de parler, mais ne trouvaient rien à dire, et faisait la plus sotte figure du monde pendant ce silence forcé qu'interrompaient de temps à autre les mots timides et à peine articulés de madame de Vèze qui offrait une assiette de soupe au maréchal son voisin, et les mines de refus de ce dernier formaient le centre d'attention le plus comique. Le ministre était tellement ému qu'il en avait perdu cette assurance si vantée dans ses journaux. D'un air fort ahuri, il balbutia quelques mots en prenant place. « Une dépêche des Tuileries. » Les potages se trouvèrent glacés et tout le monde avait froid. Le silence était si complet et tout le monde tellement mal à son aise que Lucien put entendre ces mots. « Il est bien troublé, » disait à voix basse à son voisin, un colonel assis près de Leven. « Serait-il chassé ?»« La joie surnage !» lui répondit du même ton un vieux général en cheveux blancs. Le soir, à l'opéra, toute l'attention de Lucien était pour cette triste pensée. « Mon père participe à cette manœuvre. On peut répondre qu'il fait son métier de banquier. Il sait une nouvelle, il en profite, il ne trahit aucun serment. Mais sans le receleur, il n'y aurait pas de voleur. » Cette réponse ne lui rendait point la paix de l'âme. Toutes les grâces de Mademoiselle Raymonde, qui vint dans sa loge dès qu'elle le vit, ne purent en tirer un mot. L'ancien homme prenait le dessus. Le matin avec des voleurs, et le soir avec des catins, se disait-il amèrement. Mais qu'est-ce que l'opinion ? Elle m'estimera pour ma matinée, et me méprisera parce que je passe la soirée avec cette pauvre fille. Les belles dames sont comme l'académie pour le romantisme. Elles sont juges et parties. Ah, si je pouvais parler de tout ceci avec... » Il s'arrêta au moment où il prononçait mentalement le nom de Chastelet. Le lendemain, le comte de Vaise entra en courant dans le bureau de Leven. Il ferma la porte à clef. L'expression de ses yeux était étrange. « Dieu, que le vice est laid !» pensa Lucien. « Mon cher ami, courez chez monsieur votre père !» dit le ministre d'une voix entrecoupée. « Il faut que je lui parle, absolument. Faites tout au monde pour l'emmener au ministère. Puisque, enfin, moi, je ne puis pas me montrer dans le comptoir de messieurs Van Peters et Leven. » Lucien le regardait attentivement. « Il n'a pas la moindre vergogne en me parlant de son vol. » Lucien avait tort. Monsieur de Vaise était tellement agité par la cupidité. Il s'agissait de réaliser un bénéfice de 17 000 francs. Qu'il en oubliait la timidité qu'il souffrait fort grande en parlant à Lucien. Non par pudeur morale, mais il le croyait un homme à épigramme comme son père et redoutait un mot désagréable. Le ton de monsieur de Vaise était, dans ce moment, celui d'un maître parlant à son valet. D'abord, il ne se serait pas aperçu de la différence. Un ministre honorait tellement l'être auquel il adressait la parole qu'il ne pouvait pas manquer de politesse. Ensuite, dès qu'il s'agissait d'affaires d'argent, il ne s'apercevait de rien. Monsieur Leven reçut en riant la communication que son fils était chargé de lui faire. « Ah, parce qu'il est ministre, il voudrait me faire courir. Dis-lui de ma part que je n'irai pas à son ministère et que je le prie instamment de ne pas venir chez moi. L'affaire d'hier est terminée, j'en fais d'autres aujourd'hui. » Comme Lucien se hâtait de partir. « Reste donc un peu. Ton ministre a du génie pour l'administration, mais il ne faut pas gâter les grands hommes, autrement il se néglige. » « Tu me dis qu'il prend un ton familier et même grossier avec toi. »« Avec toi est de trop. Dès que cet homme ne déclame pas au milieu de son salon, comme un préfet accoutumé à parler tout seul, il est grossier avec tout le monde. C'est que toute sa vie s'est passée à réfléchir sur le grand art de mener les hommes et de les conduire au bonheur par la vertu. » Monsieur Leven regardait son fils pour voir si cette phrase passerait. Lucien ne fit pas attention au ridicule des mots. Comme il est encore loin d'écouter son interlocuteur et de savoir profiter de ses fautes, pensa monsieur Leven. C'est un artiste, mon fils. Son art exige un habit brodé et un carrosse, comme l'art d'Ingres et de Prudhon exige un chevalet et des pinceaux. Aimerais-tu mieux un artiste parfaitement poli, gracieux, d'un ton parfait, faisant des croûtes, ou un homme au ton grossier occupé du fond des choses et non de la forme, mais produisant des chefs-d'œuvre. Si après 2 ans de ministère, M. Devez te présente 20 départements où l'agriculture ait fait un pas, 30 autres dans lesquels la moralité publique se soit augmentée, ne lui pardonneras-tu pas une inflexion négligée ou même grossière en parlant à son premier aide de camp, jeune homme qu'il aime et estime et qui d'ailleurs lui est nécessaire? Pardonne-lui le ton ridicule dans lequel il tombe sans s'en douter, car il est né ridicule et emphatique. Ton rôle à toi est de rappeler son attention à ce qu'il te doit par une conduite ferme et des mots bien placés et perçants. » Monsieur le Venn-père parla longtemps, sans pouvoir engager la conversation avec son fils. Il n'aimait pas cet air rêveur. « J'ai vu 3 ou 4 agents de change attendre dans le premier salon, » dit Leven, et il se levait pour retourner à la rue de Grenelle. « Mon ami, » lui dit son père, « toi qui as de bons yeux, lis-moi un peu. Les débats, la quotidienne et le national. » Lucien se mit à lire haut, et malgré lui ne put s'empêcher de sourire. « Et les agents de change, leur métier est d'attendre, et le mien de lire le journal. » Monsieur Devez était comme hors de lui quand Lucien rentra enfin vers les 3 heures. Leven le trouva dans son bureau, où il était venu plus de 10 fois, lui dit le garçon de bureau, parlant à mi-voix et de l'air du plus profond respect. « Eh bien, monsieur, » lui dit le ministre d'un air hagard. « Rien de nouveau, » répondit Lucien avec la plus belle tranquillité. « Je quitte mon père, par ordre duquel j'ai attendu. Il ne viendra pas et vous prie instamment de ne pas aller chez lui. L'affaire d'hier est terminée et il en fait d'autres aujourd'hui. » Monsieur Devez devint pourpre et se hâta de quitter le bureau de son secrétaire. Tout émerveillé de sa nouvelle dignité, qu'il adorait en perspective depuis 30 ans, il voyait pour la première fois que Monsieur Leven était tout aussi fier de la position qu'il s'était faite dans le monde. « Je vois l'argument sur lequel se fonde l'insolence de cet homme, » se disait Monsieur Devez en se promenant à grands pas dans son cabinet. Une ordonnance du roi fait un ministre. Une ordonnance ne peut faire un homme comme Monsieur Leven. Voilà à quoi en arrive le gouvernement en ne nous laissant en place qu'un an ou deux. Est-ce qu'un banquier eût osé refuser à Colbert de passer chez lui? Après cette comparaison judicieuse, le colérique ministre tomba dans une rêverie profonde. Ne pourrais-je pas me passer de cet insolent? Mais sa probité est célèbre, presque autant que sa méchanceté. C'est un homme de plaisir, un viveur, qui depuis 20 ans se moque de ce qu'il y a de plus respectable. Le roi, la religion, c'est le Talleyrand de la bourse. Ses épigrammes font loi dans ce monde-là. Et depuis la révolte de juillet, ce monde-là se rapproche tous les jours davantage du grand monde, du seul qui devrait avoir de l'influence. Les gens à argent sont au lieu et place des grandes familles du faubourg Saint-Germain. Son salon réunit tout ce qu'il y a d'hommes d'esprit parmi les gens d'affaires. Et il s'est faufilé avec tous les diplomates qui vont à l'opéra. Villèle le consultait. À ce nom, M. Devez s'inclina presque. Il avait le ton fort haut. Quelquefois, il poussait l'assurance jusqu'au point où elle prend un autre nom. Mais par un contraste étrange, il était sujet à des bouffées de timidité incroyables. Par exemple, il lui eût été extrêmement pénible et presque impossible de faire des ouvertures à une autre maison de banque. Il réunissait à un âpre amour pour le gain l'idée fantasque que le public lui croyait une probité sans tache. Sa grande raison, c'est qu'il succédait à un voleur. Après une grande heure de promenade agitée dans son cabinet, et après avoir envoyé au diable, fort énergiquement, son huissier qui annonçait des chefs de bureau et même un aide de camp du roi, il sentit que l'effort de prendre un autre banquier était au-dessus de son courage. Les journaux faisaient trop peur à son excellence. Sa vanité plia devant la paresse épigrammatique d'un homme de plaisir. Il y eut alors capitulation avec la vanité. « Après tout, je l'ai connu avant d'être ministre. Je ne compromets point ma dignité en souffrant chez ce vieillard caustique le ton de presque égalité auquel je l'ai laissé s'accoutumer. » Monsieur Leven avait prévu tous ces mouvements. Le soir, il dit à son fils. « Ton ministre m'a écrit, comme un amant à sa maîtresse, des picoteries. J'ai été obligé de lui répondre, et cela me pèse. Je suis comme toi, je n'aime pas assez le métal pour me beaucoup gêner. Apprends à faire l'opération de bourse. Rien n'est plus simple pour un grand géomètre, élève chassé de l'école polytechnique. La bêtise du petit joueur à la bourse est une quantité infinie. Monsieur Métral, mon commis, te donnera des leçons. Non pas de bêtise, mais de l'art de la manier. » Lucien avait l'air très froid. « Tu me rendras un service personnel si tu te fais capable d'être l'intermédiaire habituel entre Monsieur Devez et moi. La morgue de ce grand administrateur lutte contre l'immobilité de mon caractère. Il tourne autour de moi, mais depuis notre dernière opération, je n'ai voulu lui livrer que des mots gais. Hier soir, sa vanité était furibonde, il voulait me réduire au sérieux. C'était plaisant. D'ici à 8 jours, s'il ne peut te mater, il te fera la cour. Comment vas-tu recevoir un ministre, homme de mérite, te faisant la cour? Sens-tu l'avantage d'avoir un père? C'est une chose utile à Paris. » J'aurais trop à dire sur ce dernier article, et vous n'aimez pas le provincial tendre. Quant à l'excellence, pourquoi ne serais-je pas naturel avec lui, comme envers tout le monde? Ressources des paresseux, fi donc. Je veux dire que je serai froid, respectueux, et laissant toujours paraître, même fort clairement, le désir de voir se terminer la communication sérieuse avec un si grand personnage. Serais-tu de force à hasarder le propos léger et un peu moqueur? Il dirait « digne fils d'un tel père ». L'idée plaisante qui vous vient en une seconde ne se présente à moi qu'au bout de 2 minutes. Bravo! Tu vois les choses par le côté utile, et ce qui est pire encore, par le côté honnête. Tout cela est déplacé et ridicule en France. Vois ton saint-simonisme. Il avait du bon, et pourtant il est resté odieux et inintelligible au premier étage, au second et même au troisième. On ne s'en occupe un peu que dans la mansarde. Vois l'Église française, si raisonnable, et la fortune qu'elle fait. Ce peuple-ci ne sera à la hauteur de la raison que vers l'an 1900. Jusque-là, il faut voir d'instinct les choses par le côté plaisant, et n'apercevoir l'utile ou l'honnête que par un effort de volonté. Je me serais gardé d'entrer dans ces détails avant ton voyage à Nancy. Maintenant, je trouve du plaisir à parler avec toi. Connais-tu cette plante, de laquelle on dit que plus elle est foulée aux pieds, plus elle est prospère? Je voudrais en avoir, si elle existe. J'en demanderai à mon ami Touin, et je t'en enverrai un bouquet. Cette plante est l'image de ta conduite envers Monsieur Devez. Mais, mon père, la reconnaissance... Mais, mon fils, c'est un animal! Est-ce sa faute si le hasard a jeté chez lui le génie de l'administration? Ce n'est pas un homme comme nous, sensible au bon procédé, à l'amitié continue, envers lequel on puisse se permettre des procédés délicats. Il les prendrait pour de la faiblesse. C'est un préfet insolent après dîner, qui pendant 20 années de sa vie a tremblé tous les matins de lire sa destitution dans le Moniteur. C'est encore un procureur bas normand, sans cœur ni âme. Mais doué, en revanche, du caractère inquiet, timide et emporté d'un enfant. Insolent comme un préfet en crédit, 2 heures tous les matins, et penaud comme un courtisan novice qui se voit de trop dans un salon pendant 2 heures tous les soirs. mais les écailles ne sont pas encore tombées de tes yeux. Ne crois aveuglément personne, pas même moi. Tu verras tout cela dans un an. Quant à la reconnaissance, je te conseille de rayer ce mot de tes papiers. Il y a eu convention, contrat bilatéral, entre le Devèze aussitôt après ton retour à Paris. Ta mère a prétendu qu'elle mourrait si tu allais en Amérique. Il s'est engagé, premièrement, à arranger ta désertion avec son collègue de la guerre, deuxièmement, à te faire mettre des requêtes, secrétaire particulier, avec la croix au bout de l'année. Par contre, mon salon et moi, nous sommes engagés à vanter son crédit, ses talents, ses vertus, sa probité surtout. J'ai fait réussir son ministère, sa nomination à la bourse, et, à la bourse aussi, je me charge de faire, de compte à demi, toutes les affaires de bourse basées sur des dépêches télégraphiques. Maintenant, il prétend que je me suis engagée pour les affaires de bourse basées sur les délibérations du Conseil des ministres. Mais cela n'est point. J'ai vu M. N., le ministre de... qui ne sait rien administrer, mais qui sait deviner et lire sur les physionomies. Lui, N., voit l'intention du roi 8 jours à l'avance. Le pauvre Devèze ne sait pas la voir à 1 heure de distance. Il a déjà été battu à plate couture dans 2 conseils depuis 1 mois à peine qu'il est au ministère. Mets-toi bien dans la tête que M. Devèze ne peut se passer de mon fils. Si je devenais un imbécile, si je fermais mon salon, si je n'allais plus à l'opéra, il pourrait peut-être songer à s'arranger avec une autre maison. Encore, je ne le crois pas de cette force de tête-là. Il va te battre froid 5 ou 6 jours, après quoi il y aura explosion de confiance. C'est le moment que je crains. Si tu as l'air comblé, reconnaissant, d'un commis à 100 louis, ces sentiments louables, joints à ton air si jeune, te classent à jamais parmi les dupes que l'on peut accabler de travail, compromettre, humilier à merci et miséricorde, comme jadis ont taillé le traire état, et qui n'en sont que plus reconnaissants. Je ne verrai dans l'épanchement de ce sot-là que de l'enfantillage mêlé de fausseté. Auras-tu l'esprit de suivre ce programme ? Pendant les jours qui suivirent cette leçon paternelle, le ministre parlait à Lucien d'un air abstrait, comme un homme accablé de hautes affaires. Lucien répondait le moins possible et faisait la cour à madame la comtesse de Vèze. Un matin, le ministre arriva dans le bureau de Leven, suivi d'un garçon de bureau qui portait un énorme portefeuille. Le garçon de bureau sortit. Le ministre poussa lui-même le verrou de la porte et, s'asseyant familièrement auprès de Lucien. « Ce pauvre N, mon prédécesseur, était sans doute un fort honnête garçon, lui dit-il. Mais le public a d'étranges idées sur son compte. On prétend qu'il faisait des affaires. Voici, par exemple, le portefeuille de l'administration de... C'est un objet de 7 ou 8 millions. Puis-je de bonne foi demander au chef de bureau qui conduit tout cela depuis 10 ans s'il y a eu des abus? Je ne puis qu'essayer de deviner. Monsieur Crapard, c'était le chef de la police du ministère, me dit bien que madame M, la femme du chef de bureau sudit, dépense 15 ou 20 000 francs. Les appointements du mari sont de 12, et ils ont 2 ou 3 petites propriétés sur lesquelles j'attends des renseignements. Mais tout cela est bien éloigné, bien vague, bien peu concluant. Et à moi, il me faut des faits. Donc, pour lier M. N., je lui ai demandé un rapport général et approfondi. Le voici avec les pièces à l'appui. Enfermez-vous, cher ami. Comparez les pièces au rapport et dites-moi votre avis. Lucien admira la physionomie du ministre. Elle était convenable, raisonnable, sans morgue. Il se mit sérieusement au travail. 3 heures après, Leven écrivit au ministre. « Ce rapport n'est point approfondi, ce sont des phrases. Monsieur N. ne convient franchement d'aucun fait. je n'ai pas trouvé une seule assertion sans quelque faux fuyant. Monsieur N ne se lit nullement. C'est une dissertation bien écrite, redondante d'humanité, c'est un article de journal, mais l'auteur semble brouillé avec barème. Quelques minutes après, le ministre accourut. Ce fut une explosion de tendresse. Il serrait Lucien dans ses bras. « Que je suis heureux d'avoir un tel capitaine dans mon régiment !» etc. Leven s'attendait à avoir beaucoup de peine à être hypocrite. Ce fut sans la moindre hésitation qu'il prit l'air d'un homme qui désire voir finir l'accès de confiance. C'est qu'à cette seconde entrée, M. Devez lui parut un comédien de campagne qui charge beaucoup trop. Il le trouva manquant de noblesse presque autant que le colonel Malheur, mais l'air faux était bien plus visible chez le ministre. La froideur de Lucien, écoutant les éloges de son talent, était tellement glaciale, sans s'en douter lui aussi outrait tellement son rôle, que le ministre, déconcerté, se mit à dire du mal du chef de bureau N. Une chose frappa Leven. Le ministre n'avait pas lu le travail de M. N. « Parbleu, je vais le lui dire !» pensa Lucien. « Où est le mal ?»« Votre Excellence est tellement accablée par les grandes discussions du Conseil et par la préparation du budget de son département qu'elle n'a pas eu le temps de lire même ce rapport de M. N. Quelle censure, et avec raison !» Le ministre eut un mouvement de vive colère. Attaquer son aptitude au travail, douter des 14 heures que de jour ou de nuit, disait-il, il passait devant son bureau, c'était attaquer son palladium. « Parbleu, monsieur, prouvez-moi cela !» dit-il en rougissant. « À mon tour !» pensa Leven, et il triompha par la modération, par la clarté, par la respectueuse politesse. Il démontra clairement au ministre qu'il n'avait pas lu le rapport du pauvre M. N., si injurié. Deux ou trois fois, le ministre voulut tout terminer en embrouillant la question. « Vous et moi, mon cher ami, avons tout lu. Votre Excellence me permettra de lui dire que je serai tout à fait indigne de sa confiance, moi, mince débutant dans la carrière, qui n'ai autre chose à faire, si je lisais mal ou trop vite un document qu'elle daigne me confier. Il y a ici, au 5e alinéa, etc., etc. » Après avoir ramené 3 fois la question à son véritable point, Lucien finit par avoir ce succès qui eût été si fatal à tout autre bureaucrate. Il réduisit son ministre au silence. Son Excellence sortit du cabinet en fureur, et Lucien l'entendit maltraiter le pauvre chef de division. Quand l'entendant revenir, l'huissier avait introduit dans son cabinet. La voix redoutable du ministre passa jusqu'à l'antichambre, répondant à la porte dérobée par laquelle on entrait dans le bureau de Lucien. Un ancien domestique, placé là par le ministre de l'Intérieur crêté et que Leven soupçonnait fort d'être espion, entra sans être appelé. « Est-ce que son Excellence a besoin de quelque chose ?»« Non, pas son Excellence, mais moi. J'ai à vous prier fort sérieusement de n'entrer ici que quand je vous sonne. » Telle fut la première bataille de Leven. Chapitre 43. Un des bonheurs de Lucien avait été de ne pas trouver à Paris son cousin Ernest Develroy, futur membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Un des académiciens moraux qui donnait quelques mauvais dîners et disposait de 3 voix, outre la sienne, avait eu besoin d'aller aux eaux de Vichy, et M. Develroy s'était donné le rôle de garde-malade. Cette abnégation de 2 ou 3 mois avait produit le meilleur effet dans l'Académie morale. « C'est un homme à côté duquel il est agréable de s'asseoir, » disait M. Bonneau, l'un des meilleurs de cette société. « La campagne d'Ernest aux eaux de Vichy, » disait M. Leven, « avance de 4 ans son entrée à l'Institut. Ne vaudrait-il pas mieux pour vous, mon père, avoir un tel fils ?» dit Lucien presque attendri. Troppo aiuto à San Antonio, dit Monsieur Leven. Je t'aime encore mieux avec ta vertu. Je ne suis pas en peine de l'avancement d'Ernest. Il aura bientôt pour 30 000 francs de place. Comme le philosophe N. Mais j'aimerais autant avoir pour fils Monsieur Talleyrand. Il y avait dans les bureaux du comte de Vaise un Monsieur Desbac, dont la position sociale avait quelque rapport avec celle de Lucien. Il avait de la fortune, Monsieur de Vaise l'appelait son cousin, mais il n'avait pas un salon accrédité et un dîner renommé toutes les semaines pour le soutenir dans le monde. Il sentait vivement cette différence et résolut de s'accrocher à Lucien. Monsieur Desbac avait le caractère de Blifil, de Tom Jones, et c'est ce qui malheureusement se lisait trop sur sa figure extrêmement pâle et fort marquée de la petite vérole. Cette figure n'avait guère d'autre expression que celle d'une politesse forcée ou d'une bonhomie qui rappelait celle de Tartuffe. Des cheveux extrêmement noirs sur cette face blême fixaient trop les regards. Avec ce désavantage qui était grand, comme M. Desbac disait toujours tout ce qui était convenable et jamais rien au-delà, il avait fait des progrès rapides dans les salons de Paris. Il avait été sous-préfet, destitué par M. de Martignac comme trop jésuite, et c'était un des commis les plus habiles qu'eut le ministère de l'Intérieur. Lucien était, comme toutes les âmes tendres, au désespoir. Tout lui était indifférent. Il ne choisissait pas les hommes et se liait avec ce qui se présentait. M. Desbac se présentait de bonne grâce. Lucien ne s'aperçut pas seulement que Desbac lui faisait la cour. Desbac vit que Lucien désirait réellement s'instruire et travailler, et il se donna à lui comme chercheur de renseignements, non seulement dans les bureaux du ministère de l'Intérieur, mais dans tous les bureaux de Paris. Rien n'est plus commode et n'abrège plus les travaux. En revanche, M. Desbac ne manquait jamais au dîner que Mme Leven avait établi une fois la semaine pour les employés du ministre de l'Intérieur qui se liraient avec son fils. « Vous nous liez là avec d'étranges figures, » dit son mari. « Des espions subalternes, peut-être. »« Ou bien des gens de mérite inconnu. Béranger a été commis à 1 800 francs. Mais quoi qu'il en soit, on voit trop dans les façons de Lucien que la présence des hommes l'importune et l'irrite. C'est le genre de misanthrope que l'on pardonne le moins. » « Et vous voulez fermer la bouche à ses collègues de l'Intérieur ?» Mais au moins, tâchez qu'ils ne viennent pas à nos mardis. » Le but de M. Leven était de ne pas laisser un quart d'heure de solitude à son fils. Il trouva qu'avec son heure d'opéra tous les soirs, le pauvre garçon n'était pas assez bouclé. Il le rencontra au foyer des Bouffes. « Voulez-vous que je vous mène chez Mme Grandet ? Elle est éblouissante ce soir. C'est sans contredit la plus jolie femme de la salle. » Et je ne veux pas vous vendre chat en poche. Je vous mène d'abord chez Duvernoy, dont la loge est à côté de celle de Madame Grandet. Je serais si heureux, mon père, de n'adresser la parole qu'à vous ce soir. Il faut que le monde connaisse votre figure du vivant de mon salon. Déjà plusieurs fois, Monsieur Leven avait voulu le conduire dans 20 maisons du juste milieu. Fort convenable pour le chef du bureau particulier du ministre de l'Intérieur. Lucien avait toujours trouvé des prétextes pour différer. Il disait « Je suis encore trop sot, laissez-moi me guérir de ma distraction. Je tomberai dans quelque gaucherie qui s'attacherait à mon nom et me discréditerait à jamais. C'est une grande chose que de débuter, etc. » Mais comme une âme au désespoir n'a de force pour rien, ce soir-là, il se laissa entraîner dans la loge de M. Duvernoy, receveur général, et ensuite, une heure plus tard, dans le salon de M. Grandet, ancien fabricant fort riche et juste milieu furibond. L'hôtel parut charmant à Lucien, le salon magnifique, mais M. Grandet lui-même d'un ridicule trop noir. « C'est le Guizot moins l'esprit !» pensa Lucien. Il tend au sang. Ceci sort de mes conventions avec mon père. Le soir du dîner qui suivit la présentation de Lucien, M. Grandet exprima tout haut, devant 30 personnes au moins, le désir que M. N., de l'opposition, mourût d'une blessure qu'il venait de recevoir dans un duel célèbre. La beauté célèbre de Mme Grandet ne put faire oublier à Lucien le dégoût profond inspiré par son mari. C'était une femme de 23 à 24 ans au plus. Il était impossible d'imaginer des traits plus réguliers. C'était une beauté délicate et parfaite. On eût dit une figure d'ivoire. Elle chantait fort bien. C'était une élève de Rubini. Son mérite pour les aquarelles était célèbre. Son mari lui faisait quelquefois le compliment de lui en voler une qu'il envoyait vendre, et on les payait 300 francs. Mais elle ne se contentait pas du mérite d'excellent peintre d'aquarelles. C'était une bavarde effrénée. Malheur à la conversation si quelqu'un venait à prononcer les mots terribles de « bonheur », « religion », « civilisation », « pouvoir légitime », « mariage », etc. Je crois, Dieu me pardonne, qu'elle vise à imiter Madame de Staël, se dit Lucien, écoutant une de ses tartines. Elle ne laisse rien passer sans y clouer son mot. Ce mot est juste, mais il est d'un plat à mourir, quoique exprimé avec noblesse et délicatesse. Je parierais qu'elle fait provision d'esprit dans les manuels à 3 francs. Malgré son dégoût parfait pour la beauté aristocratique et les grâces imitatives de Madame Grandet, Lucien était fidèle à sa promesse, et 2 fois la semaine, il paraissait dans le salon le plus aimable du juste milieu. Un soir, que Lucien rentrait à minuit et qu'il répondait à sa mère qu'elle avait été chez les Grandet, « Qu'as-tu fait pour te tirer de pair aux yeux de Madame Grandet ?» lui dit son père. « J'ai imité les talents qui la font si séduisante. J'ai fait une aquarelle. » « Et quel sujet a choisi ta galanterie ?» dit Madame Leven. « Un moine espagnol monté sur un âne et que Rodil envoie pendre. » « Quelle horreur ! Quel caractère vous vous donnez dans cette maison ! » s'écria Madame Leven. « Et encore, ce caractère n'est pas le vôtre. Vous en avez tous les inconvénients sans les avantages. Mon fils, un bourreau !»« Votre fils, un héros !» Voilà ce que Madame Grandet voit dans les supplices décernés sans ménagement à qui ne pense pas comme elle. Une jeune femme qui aurait de la délicatesse, de l'esprit, qui verrait les choses comme elles sont, enfin, qui aurait le bonheur de vous ressembler un peu, me prendrait pour un vilain être, par exemple pour un seide des ministres qui veut devenir préfet et chercher en France des rues transnonains. Mais Madame Grandet vise au génie, à la grande passion, à l'esprit brillant. Pour une pauvre petite femme qui n'a que du bonheur, et encore du plus plat, un moine envoyé à la mort dans un pays superstitieux et par un général juste milieu, c'est sublime. Mon aquarelle est un tableau de Michel-Ange. Ainsi, tu vas prendre le triste caractère d'un don Juan ? Dit Madame Leven avec un profond soupir. Monsieur Leven éclata de rire. Ah, que cela est bon ! Lucien, un don Juan ! « Mais, mon ange, il faut que vous l'aimiez avec bien de la passion. Vous déraisonnez tout à fait. Heureux qui bat la campagne par l'effet d'une passion, et 1000 fois heureux qui déraisonne par amour, dans ce siècle où l'on ne déraisonne que par impuissance et médiocrité d'esprit. Le pauvre Lucien sera toujours dupe de toutes les femmes qu'il aimera. Je vois dans ce cœur-là du fond pour être dupe jusqu'à 50 ans. » Enfin, dit Madame Leven, souriant de bonheur. Tu as vu que l'horrible et le plat étaient le sublime de Michel-Ange pour cette pauvre petite Madame Grandet. Je parie que tu n'as pas eu une seule de ces idées en faisant ton moine, dit Monsieur Leven. Il est vrai, j'ai pensé tout simplement à Monsieur Grandet, qui ce soir-là voulait faire pendre tout simplement tous les journalistes de l'opposition. D'abord, mon moine sur son âne ressemblait à Monsieur le baron Grandet. As-tu deviné quel est l'amant de la dame ? Ce cœur est si sec que je le croyais sage. Mais sans amant, il manquerait quelque chose à son état de maison. Le choix est tombé sur Monsieur Crapard.
Quoi ?
Le chef de la police de mon ministère ?
The same.
Lui-même. Et par lequel vous pourrez faire espionner votre maîtresse aux frais de l'État. Sur ce mot, Lucien devint fort taciturne. Sa mère devina son secret.
« Je te trouve pâle, mon ami. Prends ton bougeoir, et de grâce, sois toujours dans ton lit avant 1 heure. »
« Si j'avais eu Monsieur Crapard à Nancy, » se disait Lucien, « j'aurais su autrement qu'en le voyant ce qui arrivait à Madame de Chastelet. Et que fût-il arrivé si je l'eusse connu 1 mois plus tôt ? J'aurais perdu un peu plus tôt les beaux jours de ma vie ? J'aurais été condamné 1 mois plus tôt à vivre le matin avec un fripon excellence et le soir avec une coquine, la femme la plus considérée de Paris. » On voit par l'exagération en noir de ses jugements combien l'âme de Lucien souffrait encore. Rien ne rend méchant comme le malheur. Voyez les prudes. Chapitre 44. Un soir, vers les 5 heures, en revenant des Tuileries, le ministre fit appeler Lucien dans son cabinet. Notre héros le trouva pâle comme la mort. « Voici une affaire, mon cher Levenne. Il s'agit pour vous de la mission la plus délicate. » À son insu, Lucien prit l'air altier du refus et le ministre se hâta d'ajouter « Et la plus honorable !» Après ces mots, l'air sec et hautain de Lucien ne se radoucit pas beaucoup. Il n'avait pas grande idée de l'honneur que l'on peut acquérir en servant avec 900 francs. Son Excellence continua. « Vous savez que nous avons le bonheur de vivre sous 5 polices. Mais vous savez, comme le public, et non comme il faut savoir, pour agir avec sûreté. Oubliez donc de grâce tout ce que vous croyez savoir là-dessus. Pour être lu, les journaux de l'opposition enveniment toute chose. Gardez-vous de confondre ce que le public croit vrai avec ce que je vous apprendrai. Autrement, vous vous tromperez en agissant. N'oubliez pas surtout, mon cher Levenne, que le plus vil coquin a de la vanité et de l'honneur à sa manière. Aperçoit-il le mépris chez nous, il devient intraitable. Pardonnez ces détails, mon ami, je désire vivement vos succès. » Ah, se dit Lucien, j'ai aussi de la vanité comme un vil coquin. Voilà 2 phrases trop rapprochées, il faut qu'il soit bien ému. Le ministre ne songeait déjà plus à amadouer Lucien. Il était tout à sa douleur. Son œil hagard se détachait sur des joues d'une pâleur mortelle. En tout, c'était l'air du plus grand trouble. Il continua. « Ce diable de général, N, ne pense qu'à se faire lieutenant général. Il est, comme vous le savez, chef de la police du château. Mais ce n'est pas tout. Il veut être ministre de la guerre. » Et comme tel, se montrer habile dans la partie la plus difficile. Et à vrai dire, la seule difficile de ce pauvre ministère, ajouta avec mépris le grand administrateur. Veiller à ce que trop d'intimité ne s'établisse pas entre les soldats et les citoyens. Et cependant, maintenir entre eux les duels suivis de mort à moins de 6 par mois. Lucien le regarda. « Pour toute la France, » reprit le ministre, « c'est le taux arrêté dans le Conseil des ministres. Le général N s'était contenté jusqu'ici de faire courir dans les casernes ces bruits d'attaque et de guet-apens commis par des gens du bas-peuple, par des ouvriers, sur des militaires isolés. Ces classes sont sans cesse rapprochées par la douce égalité. Elles s'estiment. Il faut donc, pour les désunir, un soin continu dans la police militaire. Le général Helm me tourmente sans cesse pour que je fasse insérer dans mes journaux des récits exacts de toutes les querelles de cabaret, de toutes les grossièretés de corps de garde, de toutes les rixes d'ivrognes qu'il reçoit de ses sergents déguisés. Ces messieurs sont chargés d'observer l'ivresse sans jamais se laisser aller. Ces choses font le supplice de nos gens de lettres. « Comment espérer ? » disent-ils. « Quel qu'effet d'une phrase délicate, d'un trait d'ironie de bon goût après ses saletés. Qu'importe à la bonne compagnie des succès de cabaret, toujours les mêmes. À l'exposé de toutes ces vilainies, le lecteur un peu littéraire jette le journal et ajoute, non sans raison, quelques mots de mépris sur les gens de lettres salariés. « Il faut avouer, » continua le ministre en riant, « que quelque adresse qu'y mettent messieurs de la littérature, le public ne lit plus ces querelles dans lesquelles deux ouvriers maçons auraient assassiné trois grenadiers armés de leurs sabres, sans l'intervention miraculeuse du poste voisin. Les soldats, même dans les casernes, se moquent de cette partie de nos journaux que je fais jeter dans les corridors. Dans cet état de choses, ce diable de haine, tourmenté par les deux étoiles qui sont sur ses épaulettes, a entrepris d'avoir des faits. Or, mon ami, ajouta le ministre en baissant la voix, l'affaire Cortis, si vertement démentie dans nos journaux d'hier matin, n'est que trop vraie. Cortis, l'un des hommes les plus dévoués du général N, un homme à 300 francs par mois, a entrepris mercredi passé de désarmer un conscrit bien niais qu'il guettait depuis 8 jours. Ce conscrit fut mis en sentinelle au beau milieu du pont d'Austerlitz à minuit. Une demi-heure après, Cortis s'avance en imitant l'ivrogne. Tout à coup, il se jette sur le conscrit et veut lui arracher son fusil. Ce diable de conscrit, signé en apparence et choisi sur sa mine, recule 2 pas et campe au Cortis un coup de fusil dans le ventre. Le conscrit s'est trouvé être un chasseur des montagnes du Dauphiné. Voilà Cortis blessé mortellement. Mais le diable, c'est qu'il n'est pas mort. Voici l'affaire. Maintenant, le problème à résoudre. Cortis sait qu'il n'a que 3 ou 4 jours à vivre. Qui nous répond de sa discrétion? On, Hideste le roi, vient de faire une scène épouvantable au général N. Malheureusement, je me suis trouvé sous la main, on a prétendu que moi seul avais le tact nécessaire pour faire finir cette cruelle affaire comme il faut. Si j'étais moins connu, j'irais voir Cortis, qui est à l'hôpital de... et étudier les personnes qui approchent son lit. Mais ma présence seule centuplerait le venin de cette affaire. Le général N paie mieux ses employés de police que moi les miens. C'est tout simple. Les garnements qu'il surveille inspirent plus de crainte que ceux qui sont la pâture ordinaire de la police du ministère de l'Intérieur. Il n'y a pas un mois que le général N m'a enlevé 2 hommes. Ils avaient 100 francs de traitement chez nous et quelques pièces de 5 francs par-ci par-là quand il leur arrivait de faire de bons rapports. Le général leur a donné 250 francs par mois, et je n'ai pu lui parler qu'en riant de ses moyens d'embauchage fort ridicules. Il doit être furieux de la scène de ce matin et des éloges dont j'ai été l'objet en sa présence, et presque à ses dépens. Un homme d'esprit comme vous devine la suite. Si mes agents font quelque chose qui vaille auprès du lit de douleur de Cortis, ils auront soin de remettre leur rapport dans mon cabinet 5 minutes après qu'ils m'auront vu sortir de l'hôtel de la rue de Grenelle, et 1 heure auparavant, le général N les aura interrogés tout à son aise. Maintenant, mon cher Leven, voulez-vous me tirer d'un grand embarras ? Après un petit silence, Lucien répondit « Oui, monsieur. » Mais l'expression de ses traits était infiniment moins rassurante que sa réponse. Lucien continua d'un air glacial. « Je suppose que je n'aurai pas à parler au chirurgien ?»« Très bien, mon ami, très bien. Vous devinez le point de la question. » se hâta de répondre le ministre. « Le général N a déjà agi, et trop agi. Ce chirurgien est une espèce de colosse, un nommé Mono, qui ne lit que le courrier français au café près l'hôpital, et qui, enfin, à la 3e tentative de l'homme de confiance de N, a répondu à l'offre de la croix par un coup de poing effectif qui a considérablement refroidi le zèle de l'homme de N, et qui plus est, fait scène dans l'hôpital. « Voilà un Jean Foutre !» s'est écrié Mono, « qui me propose simplement d'empoisonner avec de l'opium le blessé du numéro 13. » Le ministre, dont le ton avait été jusque-là vif, serré, sincère, se crut obligé de faire deux ou trois phrases éloquentes, comme le journal de Paris, sur ce que, quant à lui, jamais il n'eût fait parler au chirurgien. Le ministre ne parlait plus. Lucien était violemment agité. Après un silence inquiétant, il finit par dire au ministre « Je ne veux pas être un être inutile. Si j'obtiens de votre excellence de me conduire envers Cortis comme ferait le parent le plus tendre, j'accepte la mission. » « Cette condition me fait injure !» s'écria le ministre d'un air affectueux. Et réellement, les idées d'empoisonnement ou seulement d'opium lui faisaient horreur. Lorsqu'il avait été question, dans le conseil, d'opium pour calmer les douleurs du malheureux Cortis, il avait pâli. « Rappelons-nous, » ajouta-t-il avec effusion, « l'opium tant reproché au général Bonaparte sous les murs de Jaffa. Ne nous exposons pas à être en butte pour toute la vie aux calomnies des journaux républicains, et, ce qui est bien pis, des journaux légitimistes qui pénètrent dans les salons. » Ce mouvement vrai et vertueux diminua l'angoisse horrible de Lucien. Il se disait « Ceci est bien pis que tout ce que j'aurais pu rencontrer au régiment. Là, sabré ou même fusillé, comme à... un pauvre ouvrier égaré ou même innocent. Ici, se trouver mêlé toute la vie à un affreux récit d'empoisonnement. Si j'ai du courage, qu'importe la forme du danger ?» Il dit d'un ton résolu. « Je vous seconderai, monsieur le comte. Je me repentirai peut-être toute ma vie de ne pas tomber malade à l'instant, garder le lit réellement 8 jours, ensuite revenir au bureau, et si je vous trouvais trop changé, « donnez ma démission. Le ministre est trop honnête homme. » Et il pensait « trop engagé avec mon père. » Pour me persécuter avec les grands bras de son pouvoir. Mais je suis là de reculer devant le danger. » Ceci fut dit avec une chaleur contenue. « Puisque la vie au XIXe siècle est si pénible, je ne changerai pas d'état pour la 3e fois. » Je vois très bien quelle affreuse calomnie j'expose tout le reste de ma vie. Je sais comme est mort monsieur de Caulaincourt. Je vais donc agir avec la vue continue, à chaque démarche, de la possibilité de la justifier dans un mémoire imprimé. Peut-être, monsieur le comte, eût-il été mieux, même pour vous, de laisser ces démarches à des agents recouverts par l'épaulette. Le français pardonne beaucoup à l'uniforme. Le ministre fit un mouvement. Je ne veux, monsieur, ni vous donner des conseils, non demandés, ni d'ailleurs tardifs, ni encore moins vous insulter. Je n'ai pas voulu vous demander 1 heure pour réfléchir, et naturellement, j'ai pensé tout haut. Cela fut dit d'un ton si simple, mais en même temps si mal, que la figure morale de Lucien changea aux yeux du ministre. C'est un homme, et un homme ferme. Pensa-t-il. Tant mieux. J'en maudirai moins l'effroyable paresse de son père. Nos affaires de télégraphe sont enterrées à jamais, et je puis en conscience fermer la bouche à celui-ci par une préfecture. Ce sera une façon fort honnête de m'acquitter avec le père, s'il ne meurt pas d'indigestion d'ici là, et en même temps de lier son salon. Ces réflexions furent faites plus vite qu'elles ne sont lues. Le ministre prit le ton le plus mâle et le plus généreux qu'il put. Il avait vu la veille la tragédie Horace de Corneille, fort bien jouée. « Il faut se rappeler, » pensa-t-il, « des intonations d'Horace et de Curias s'entretenant ensemble après que Flavian leur a donné leur combat futur. » Sur quoi, le ministre, usant de sa supériorité de position, se mit à se promener dans son cabinet et à se dire. Ici, 2 verres. Lucien avait pris son parti. « Tout retard, se dit-il, est un reste d'incertitude. Et une lâcheté, pourrait ajouter une longue ennemie. » À ce nom terrible qu'il se prononça à soi-même, il se tourna vers le ministre qui se promenait d'un air héroïque. « Je suis prêt, monsieur. » Le ministre de l'Intérieur a-t-il fait quelque chose dans cette affaire ?
En vérité, je l'ignore.
Je vais voir où en sont les choses et je reviens.
Lucien courut dans le bureau de Monsieur Desbacs et, sans se compromettre en aucune façon, l'envoya aux informations dans les bureaux. Il rentra bien vite.
« Voici, dit le ministre, une lettre qui place sous vos ordres tout ce que vous rencontrerez dans les hospices, et voici de l'or. »
Lucien s'approcha d'une table pour écrire un mot de reçu.
« Que faites-vous là, mon cher ?
Un reçu entre nous ? » dit le ministre avec une légèreté guindée.
« Monsieur le comte, tout ce que nous faisons ici peut un jour être imprimé. »
répondit Lucien avec le sérieux d'un homme qui dispute sa tête à l'échafaud. Ce regard ôta toute leur facilité aux manières de son excellence.
« Attendez-vous à trouver auprès du lit de Cortis un agent du National ou de la Tribune ? Surtout pas d'emportement, pas de duel avec ces messieurs. Vous sentez quel immense avantage pour eux, et comme le général N triompherait de mon pauvre ministère. »
Je vous réponds que je n'aurai pas de duel, du moins du vivant de Cortis.
Ceci est l'affaire du jour. Dès que vous aurez fait ce qui est possible, cherchez-moi partout. Voici mon itinéraire. Dans une heure, j'irai aux finances. De là, chez... Vous m'obligerez sensiblement en me tenant au courant de tout ce que vous ferez.
Votre Excellence m'a-t-elle mis au courant de tout ce qu'elle a fait ? Dit Lucien d'un air significatif.
D'honneur, dit le ministre, je n'ai pas dit un mot à Crapard. De mon côté, je vous livre l'affaire vierge.
Votre Excellence me permettra de lui dire, avec tout le respect que je lui dois, que dans le cas où j'aperçois quelqu'un de la police, je me retire. Un tel voisinage n'est pas fait pour moi.
De ma police, oui, mon cher aide de camp. « Mais puis-je être responsable envers vous des sottises que peuvent faire les autres polices ? Je ne veux ni ne puis rien vous cacher. Qui me répond qu'aussitôt après mon départ, on n'a pas donné la même commission à un autre ministre ? L'inquiétude est grande au château. L'article du National est abominable de modération. Il y a une finesse, une hauteur de mépris. On le lira jusqu'au bout dans les salons. Ce n'est point le ton de la Tribune. » Ah, ce Guizot qui n'a pas fait M. Carrel conseiller d'État.
Il eût refusé mille fois. Il vaut mieux être candidat à la République française que conseiller d'État. Un conseiller d'État a 12 000 francs. Il en reçoit 36 pour dire ce qu'il pense. D'ailleurs, son nom est dans toutes les bouches. Mais fût-il lui-même auprès du lit de Cortis, je n'aurais pas de duel.
Cet épisode de vrai jeune homme, dit avec feu, ne parut pas plaire infiniment à son excellence.
Adieu, adieu, mon cher, bonne chance. Je vous ouvre un crédit illimité, et tenez-moi au courant. Si je ne suis pas ici, soyez assez bon pour me chercher.
Lucien retourna à son cabinet avec le pas résolu d'un homme qui marche à l'assaut d'une batterie. Il n'y avait qu'une petite différence. Au lieu de penser à la gloire, il voyait l'infamie. Il trouva Desbacs dans son bureau.
« La femme de Cortis a écrit. Voici sa lettre. »
Lucien la prit.
« Mon malheureux époux n'est pas entouré de soins suffisants à l'hôpital. Pour que mon cœur puisse lui prodiguer les soins que je lui dois, il faut de toute nécessité que je puisse me faire remplacer auprès de ces malheureux enfants qui vont être orphelins. Mon mari est frappé à mort sur les marches du trône et de l'autel. Je réclame de la justice de votre Excellence. »
Au diable l'Excellence, pensa Lucien. Je ne pourrais pas dire que la lettre m'est adressée.
Quelle heure est-il ? Dit-il à Desbacs. Il voulait avoir un témoin irrécusable.
6h moins le quart. Il n'y a plus un chat dans les bureaux.
Lucien marqua cette heure sur une feuille de papier. Il appela le garçon de bureau espion.
« Si l'on vient me demander dans la soirée, dites que je suis sorti à 6 heures. »
Lucien remarqua que l'œil de Desbacs, ordinairement si calme,
était étincelant de curiosité et d'envie de se mêler.
« Vous pourriez bien n'être qu'un coquin, mon ami, » pensa-t-il,
« ou peut-être même un espion du général N. »«
C'est que, tel que vous me voyez, » reprit-il d'un air assez indifférent,
« j'ai promis d'aller dîner à la campagne. On va croire que je me fais attendre comme un grand seigneur. »
Il regardait l'œil de Desbacs qui, à l'instant, perdit tout feu.